dans n'importe quelle bonne école de sciences politiques, ou simplement en faisant marcher son bon sens, à appréhender et à mesurer l'importance d'un conflit à travers d'autres grilles de lecture, la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, l'économie, tout ce qu'on voudra. Or, là, tout se réduit exclusivement à cette lecture religieuse des conflits. On pourrait dire la même chose à partir de votre bouquin, c'est-à-dire que Korm s'attaque au conflit, mais on pourrait dire pour une lecture profane de la société, pour une lecture profane des faits politiques. Ouais. Et dans l'islamisation, quand on pense aux musulmans visés par cette islamisation, c'est pas les grands chers du Qatar ou d'Abu Dhabi auxquels on pense. C'est quand même plutôt les jeunes de banlieue, plutôt les mosquées des quartiers populaires. Je veux dire par là que la sociologie n'entre pas dans l'esprit.
Mais on peut même le rapprocher des réflexions de Korm. C'est valable à l'extérieur, dans les relations internationales, et c'est valable à l'intérieur. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une lecture religieuse des conflits qui est devenue, depuis les années 2000, une lecture religieuse islamique des conflits. C'est-à-dire que lorsque c'est un conflit où il peut y avoir une variable religieuse qui serait la variable chrétienne ou bouddhiste et autres, au contraire, elle est euphémisée, voire elle disparaît de l'analyse. Par exemple, on parle très rarement de la dimension religieuse des conflits ethniques existants au Sri Lanka, parce que ça met en cause le bouddhisme, et donc le bouddhisme, c'est la bonne religion par excellence. Donc forcément, ça n'entre pas dans la réflexion. Alors qu'un conflit comme le Mali, où ce sont des musulmans contre des musulmans, avec un islam qui était sur place, un islam plutôt de tariqa, soufi, relativement ouvert, et face à ça, un islam d'Al-Qaïda au Maghreb et d'autres organisations qui se disent islamistes, on va dire c'est de l'islamisation. Alors que derrière, il y a des conflits géopolitiques, des conflits de territoire très précis qui instrumentalisent le religieux. Mais c'est comme si nous étions même inhibés, même les scientifiques, les politologues étaient inhibés dans leur capacité à analyser ce conflit malien en termes sociaux, économiques, stratégiques, ce qu'il est, mais qu'ils sont eux-mêmes omnubilés, aveuglés par le fait que c'est l'islam, donc c'est forcément l'islamisation. Et ils en oublient que c'est des musulmans contre des musulmans, donc c'est pas islamisation. Et que 99% des musulmans, ils ne veulent pas qu'on applique la charia en coupant une main, etc. Ils ne veulent pas. Et en interne, c'est exactement pareil avec la visibilité. Nous, ce qu'on constate, je vous donne un exemple, qui est un exemple qui nous a frappé, mais qui nous a vraiment frappé. Depuis 2009,
nous, vous dites,
l'Observatoire du religieux, le laboratoire que je dirige, et puis les étudiants doctorants que j'ai mis sur ce terrain. Depuis 2009, lorsqu'on a commencé à parler de façon outrancière dans les médias et ailleurs du voile intégral, ce fameux voile intégral, qui peut choquer. Effectivement, je rencontre une jeune fille en voile intégrale dans la rue. D'abord, je ne sais pas si c'est une jeune fille ou pas, et ça peut me choquer, je trouve ça étrange. Mais en tant que sociologue, je prends du recul et j'essaye de comprendre, libido sciendi, désir de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai mis des chercheurs sur le terrain pendant des mois et des mois, et on s'est rendu compte de façon assez étonnante que contrairement à l'image que l'on avait de ce voile intégral, de cette espèce de nouveau radicalisme, c'était certes du radicalisme, retour aux racines, à des racines supposées, du fondamentalisme, retour à un fondement supposé. Mais quand on approfondissait avec l'enquête, avec ces jeunes filles, on se rendait compte qu'elles étaient individualistes et qu'elles avaient quasiment une vision New Age de leur manière de porter le voile intégral. C'est-à-dire que ça participait, elles étaient un peu comme des jeunes filles qui pourraient, de façon surprenante, s'habiller de façon gothique. Se percer tous les côtés et surprendre leurs propres parents, leurs propres grands frères et vouloir donner des leçons à tout le monde. C'est-à-dire que c'était celles, en gros, qui sont les plus fortes en tête, qui sont ultra-individualistes et qui ne sont pas du tout dans l'islamisme au sens où elles ne veulent pas transformer la société, mais elles prétendent qu'elles sont plus malignes que les autres, qu'elles veulent se distinguer. Donc elles ne sont pas prosélytes, elles ne veulent pas que tout le monde le soit parce que ça ne serait plus aussi désirable. Enfin, un phénomène vraiment étonnant. Et presque toutes celles qu'on a réussi à interroger, alors je ne dis pas qu'il n'y en ait pas d'autres, mais celles, ce qui constituait...
Toutes celles, vous n'en avez pas beaucoup de toute façon.
Exactement.
C'est quelques centaines.
Tout à fait. Et d'ailleurs, lorsqu'on a travaillé aussi sur les chiffres, en juin, il y en avait 200. En septembre, il y en avait 2000. On s'est dit, comment se fait-il que les RG...
La multiplication.
Exactement. On a compris ce que c'était. On a compris quel était le pot aux roses. C'est que, apparemment, les individus qui travaillent pour les RG, qui font ce type de comptage, se mettent devant des mosquées réputées salafistes où il y a plus de jeunes femmes comme ça, et ils les comptent. Mais le problème, c'est que comme elles ont un voile intégral, ils les comptent plusieurs fois. Et on finit par avoir des chiffres absolument hallucinants, qui sont plus fonction de leur fantasme que de la réalité. Alors que, bon, ça n'a pas énormément évolué. Alors aujourd'hui, c'est devenu à la mode. plus à la mode,